Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie de la dynamite au prix Nobel de la paix. Nous avons laissé Alfred Nobel alors qu'il commence enfin à se soucier un peu de sa vie privée. À 43 ans, en 1876, il passe une annonce dans un journal viennois pour trouver une secrétaire particulière. Mais en fait de secrétaire, il cherche surtout à briser sa solitude et pourquoi pas à trouver enfin l'amour. Depuis son château d'Hermannsdorf, près de Vienne, la baronne von Suttner a lu cette annonce. Or, elle a justement un gros problème. Son fils aîné, Arthur, s'est entiché de la jeune préceptrice de ses petits frères et sœurs, une certaine Bertha von Kinsky. Certes, c'est une jeune fille brillante. Elle est issue de la plus haute aristocratie austro-hongroise. Elle a bénéficié d'une éducation soignée et parle plusieurs langues. Mais elle n'a pas le sou. Sa mère a dilapidé au jeu l'héritage familial. Il n'est pas question de laisser prospérer cette idylle. Alors cet emploi à Paris, auprès d'un célèbre homme d'affaires français, est l'occasion toute trouvée de séparer les tourtereaux. Les von Suttner, après avoir congédié Bertha, l'incitent à répondre à l'annonce d'Alfred Nobel. Bertha et Alfred Nobel correspondent. On se met d'accord sur les émoluments de la jeune femme, on convient qu'elle fera le voyage quelques semaines plus tard et sera logée au Grand Hôtel à son arrivée à Paris. Une fois sur place, quelle n'est pas la surprise de Bertha de se trouver en présence non pas du vieux monsieur un peu diminué auquel elle s'attendait, mais d'un homme jeune encore, plein d'esprit, s'exprimant remarquablement et supérieurement intelligent. Cependant, Bertha ne peut pas s'empêcher de remarquer son cynisme, son côté un peu aigri. Il critique facilement les autres, il serait même plutôt du genre misanthrope. Elle est frappée par l'expression très sombre de ce visage noyé dans une barbe brune. L'homme semble profondément mélancolique. Seuls ses yeux bleus le tempèrent un peu, écrira-t-elle à son sujet. Ni séducteur ni bon vivant, Alfred ne sait s'y prendre avec cette Autrichienne si distinguée et pleine de charme. Il se donne beaucoup de mal pour lui plaire, mais il est timide, il est un peu gauche. Il se dévoile un peu, lui raconte son enfance, lui montre ses ouvrages et les poésies qu'il écrit et que d'ordinaire il cache avec un soin jaloux. Il aimerait tant lui faire oublier son pays. Bertha et Alfred conversent à bâton rompu, car Bertha a déjà des convictions pacifistes très arrêtées. Alfred Nobel lui livre ses expériences et ses projets.
Je voudrais parvenir à créer une machine et un explosif d'une efficacité dévastatrice tellement effroyable que la guerre en fut rendue complètement impossible.
On en est là quand le roi de Suède prie Alfred Nobel de venir à Stockholm, où il doit faire la démonstration de la dynamite gomme, qui a pour particularité d'exploser sous l'eau. Alfred quitte donc Paris pour 8 jours. À son retour, l'oiseau s'est envolé. L'amour de Bertha pour Arthur von Suttner a été le plus fort. Elle est rentrée en Autriche pour l'épouser malgré l'opposition de ses parents. Les jeunes gens partiront s'installer dans le Caucase. Ainsi se termine assez curieusement la première rencontre entre Alfred Nobel et Bertha von Kinsky, devenue par mariage Bertha von Suttner. Éphémère secrétaire d'Alfred Nobel, pas plus de 2 semaines, elle n'en a pas moins joué un rôle dans la conversion de l'inventeur de la dynamite au pacifisme. Et c'est elle qui va l'inciter à mettre sa fortune au service d'une organisation humaniste qui deviendra le prix Nobel. Pendant 10 années, ils échangeront de nombreuses lettres et se reverront quelquefois. Mais pour l'heure, Nobel se sent encore plus seul, plus renfermé, plus sceptique. On ne le voit plus à Paris que chez une certaine Madame Adam, où il rencontre écrivains, artistes et politiciens. On y écoute de la musique, des poésies. Et l'on espère bien qu'au printemps prochain, on marchera avec le général Boulanger en tête contre Bismarck. Oui, la France de la fin des années 1880 rêve de revanche sur l'Allemagne. De temps en temps, Alfred fait le voyage jusqu'à Stockholm pour l'anniversaire de sa vieille mère, et il revoit aussi ses deux frères. Eux aussi ont acquis une renommée universelle et ont amassé une fortune encore plus grande que celle d'Alfred. En 1888, survient un incident traumatisant pour lui. Un journal annonce sa mort par erreur.
Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier.
Un marchand de mort ? Est-ce tout ce que l'on retiendra de lui le jour où il disparaîtra ? Cette pensée commence à le hanter. Et c'est alors, en 1889, que Bertha von Suttner publie un grand roman pacifiste intitulé « Bas les armes ». Nobel lit ce livre avec passion et adresse à son ami une lettre de félicitations enthousiaste. Et c'est antimilitariste, le livre de Bertha évoque la guerre du point de vue d'une femme. Et c'est un succès foudroyant. L'ouvrage est vendu à 2 millions d'exemplaires et traduit en 12 langues. Sur sa lancée, Bertha crée une société pacifiste autrichienne. Portée par le succès de son livre, elle est même la vedette du 3e congrès international de la paix qui se tient à Rome en 1891. Elle y prononce son premier discours public, dans un italien parfait, appelant de ses vœux le désarmement, le règlement des litiges entre pays par le droit et, pour ce faire, la création d'une union internationale de la paix, dont elle devient vice-présidente. Nobel soutient financièrement quelques-unes de ses associations pacifistes. Cependant, il demeure le sceptique qu'il a toujours été. Et quand ils se rencontrent à Zurich, Bertha et lui, après le congrès de la paix, ils reprennent une conversation assez semblable à celle qu'ils avaient eue 16 ans auparavant.
« Qui sait si ce ne sont pas précisément mes usines qui permettront de mettre un terme définitif à la guerre plutôt que vos congrès ? Le jour où deux corps d'armée seront à même de se détruire l'un l'autre en moins d'une seconde, les nations civilisées reculeront d'horreur et rappelleront leurs troupes nouvelles. »
Nobel en tient toujours pour l'idée d'une force de dissuasion. Mais peut-être serait-il possible, dans un premier temps, d'obtenir au moins que les nations agissent d'un commun accord contre le premier agresseur. Cela suffirait déjà à rendre toute guerre impossible. À l'aube des années 1890, Alfred Nobel, qui vit pourtant à Paris depuis 18 ans et a acheté par ailleurs le château dit « la maison du Fayet » en Seine-et-Oise, commence à envisager sérieusement de quitter la France. D'abord, il a fait l'objet d'une campagne de dénigrement par la presse nationaliste française qui lui a reproché d'avoir vendu son brevet sur la poudre sans fumée, dite « basilite », à l'Italie, avant de l'avoir offert à la France. Or, au même titre que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, l'Italie fait alors partie des ennemis de la France. À la suite de cette violente campagne de presse, les choses se sont envenimées. Le préfet de Seine-et-Oise, où se trouve le château et l'usine d'Alfred, a accusé l'industriel d'avoir enfreint certains obscurs règlements de sûreté générale et le menace de prison. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Puis un autre incident pénible survient en 1890. On découvre que la société française Nobel, via Paul Barbe, associé d'Alfred, aurait été impliqué dans le scandale de Panama, une affaire de corruption liée au percement du canal. Pour échapper à l'esclandre, Paul Barbe s'est donné la mort le 29 juillet 1890. Dans toute cette affaire, Nobel n'est en aucun cas en cause, mais il craint d'être éclaboussé. Il sombre dans une sorte de mélancolie hostile, migraineux, souvent déprimé. Il abandonne la direction de toutes ses sociétés. Il ne veut plus avoir à se mêler des transactions de son trust. Plus que jamais, il va voyager et faire de longs séjours, notamment en Allemagne. Mais va-t-il pour autant s'arrêter de travailler? Jamais de la vie. En 1891, à 58 ans, Nobel se fait construire une villa et un laboratoire à San Remo, en Italie. Il bâtit sa villa Mio Nido, mon nid. En France, la chose est très mal vue. L'inquiétude française est d'ailleurs bien légitime, car ce n'est pas parce qu'il s'installe sur la Riviera qu'Alfred Nobel a l'intention de se reposer. Dans le laboratoire qu'il s'est fait installer, il étudie le caoutchouc synthétique et la soie artificielle. Pour le compte de l'armée, il travaille également sur des ballons captifs. Il étudie les progrès réalisables dans l'artillerie lourde. Il peut sembler paradoxal qu'Alfred Nobel travaille presque exclusivement sur la technique militaire, alors qu'il est déjà un pacifiste convaincu. Mais ses convictions et son travail quotidien sont deux choses différentes. Il ne peut s'empêcher de chercher, de créer, d'imaginer. Et au moment même où il réfléchit à consacrer sa fortune par testament à la paix, il se charge de créer la plus grande fabrique de canons de Scandinavie. Le 27 novembre 1895, au cercle suédois et norvégien de Paris, rue de Rivoli, Alfred Nobel met un point final à son testament. Un an plus tard, le 10 décembre 1896, il meurt d'un AVC dans son cabinet de travail de sa villa de San Remo. Il est enterré au cimetière du Nord à Stockholm. Quelques jours avant sa mort, il faisait encore des expériences sur des mélanges explosifs et déposait un nouveau brevet. Lorsque l'on ouvre son testament, on n'y trouve aucune disposition pour créer une fondation qui se consacrerait à améliorer les techniques de guerre. Non, tout au contraire. Toute sa fortune, jusqu'à son dernier sou, doit être utile à la paix. Et pour cela, 5 prix devront être attribués sur les intérêts de sa fortune, non pas tous les 5 ans, comme il en avait d'abord manifesté l'intention, mais tous les ans.
3 sont destinés à récompenser les découvertes les plus importantes dans le domaine de la physique, la chimie et de la médecine. Un 4e sera attribué à l'œuvre littéraire la plus remarquable dans le domaine de l'idéal. Enfin, le 5e prix, le véritable prix de la paix, doit être attribué à celui qui aura travaillé avec le plus de succès à la fraternisation des peuples, à la réduction et à la disparition des armées, ainsi qu'au développement des congrès. Pourra obtenir ce prix toute personne dont les travaux auront été, dans le courant de l'année écoulée, les plus utiles à l'humanité dans n'importe quelle nation.
En décembre 1901, l'opinion publique européenne attend avec impatience la désignation des tout premiers lauréats et l'attribution des 5 premiers prix Nobel. Les 3 premiers prix scientifiques sont décernés en Allemagne à Wilhelm Röntgen, l'inventeur des rayons X, au chimiste berlinois Van't Hoff et à Émile de Bering, créateur du vaccin antidiphtérique. Le prix de littérature est attribué au poète français Sully Prudhomme. Et enfin, le plus important, celui de la paix, est attribué conjointement au Suisse Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et à Frédéric Passy, président de la Société française pour la paix. Ainsi étaient respectées les dernières volontés d'un homme qui, toute sa vie, avait été écartelé entre misanthropie et foi en l'humanité, entre invention dévastatrice et désir de paix. Depuis 1901, année du premier prix Nobel, il y a eu 975 lauréats, dont 28 femmes. Qui fut la première d'entre elles et la première femme lauréate du prix Nobel de la paix? Désignée le 10 décembre 1905, elle s'appelait, mais je suis bien certaine que vous l'avez déjà deviné, Bertha von Suttner. C'est la fin de ce double épisode consacré à Alfred Nobel, le vagabond millionnaire. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre.
La réalisation est signée Christophe Davio.
Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.